Neptune FM sur la côte vendéenne. Neptune FM. Il est 16h. Neptune FM. Écoutez et découvrez.
Non, 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 c'est pas la fin, c'est le début, bien sûr, de l'émission. Un cheveu, ça n'a rien pour la main. Mais, c'est une émission spéciale aujourd'hui, puisque j'ai des invités avec un thème. Mais ça va vous rappeler quelque chose, parce qu'il y a eu des émissions qui ont été faites, bien, justement, spéciales il y a déjà deux ans, avec des personnes qui sont là, n'est-ce pas, qui vont pouvoir parler. Mais avant tout, on envoie le petit indicatif qui va bien, le vrai, pour cette émission spéciale. Bonjour Elsa.
Bonjour Yves.
Comment ça va?
Ben ça va.
Bonjour, je la vois plus. Bonjour
Agnès.
Voilà. Tu vois presque plus là derrière, je suis caché derrière les écrans. Bonjour Agnès, ça va?
Oui, très bien.
Alors donc voilà, ça fait, rendez compte, ça fait déjà deux ans qu'on s'est pas vu.
C'est incroyable.
Ça fait, on se rend pas compte. Le Covid, c'est quelque chose. Hein. Ça nous a mis un peu dedans. Alors donc Elsa et Agnès, vous faites partie de
Odysseyeux,
voilà, bien sûr. Et il y avait un projet Odysseyeux, c'est ça, hein, qui a donc pendant tout ce Covid, il a quand même avancé ce projet.
Mais voilà, c'est bien pour ça qu'on est là aujourd'hui.
Parce que alors, bon, on rappelle ce que c'est un projet de recherche collaborative. Ce projet se termine. Ouais, tu te rends compte, mais il y aura des suites. Nous sommes là aujourd'hui, bien sûr, eux, ils sont là, surtout moi, surtout eux, pour faire un petit bilan dans le cadre de la fête de la science qui a eu lieu la semaine dernière.
Voilà, hein, c'est ça.
Et qu'on n'a pas eu le temps de monter l'émission. On l'a fait, nous on prolonge la fête de la science, elle a eu lieu, il n'y a jamais de limite, on continue après. Mais quels sont les résultats d'Odysseyeux qui permettent de mieux comprendre les conséquences du changement climatique sur les lieux? Qu'est-ce que la recherche collaborative et en quoi est-ce important d'impliquer les citoyens dans la recherche sur l'adaptation au changement climatique? Alors, on va parler de la première partie, la science participative ou collaborative, parce qu'il y a quelqu'un d'autre avec nous, bien sûr. Et donc, alors, qu'est-ce que c'est que cette science participative ou collaborative? Qu'est-ce que c'est? Sandrine, ben, bonjour. Et puis, parle-nous donc de cette science collaborative, participative. Bonjour Sandrine.
Bonjour, ben moi je suis Sandrine et donc je suis coprésidente de l'association Yeux Demain qui soutient depuis la genèse le projet d'Agnès et d'Elsa Odysseyeux.
Très bien. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que c'est que les sciences participatives? Je vais y arriver.
Oui. Alors, les sciences participatives, en fait, donc je me suis inspirée d'un site internet qui s'appelle le projet Pangolin, qui vise à vulgariser justement la science. Donc, de prime abord, c'est vrai que les sciences, ça peut paraître un peu obscur, un peu compliqué à aborder, mais au fond, le but de la science, c'est un peu de comprendre le monde dans lequel on est, dans lequel on vit, et vouloir comprendre, c'est pas seulement un truc de scientifique, t'es d'accord?
Ah non, tout à fait. C'est un truc de curieux, d'abord.
Voilà, de curieux.
Mais oui.
Et du coup, ce qui est important aussi, c'est que les citoyens et les décideurs politiques, ils ont besoin d'être informés pour prendre des décisions. Donc, on a besoin, d'une part, effectivement, de tout un travail scientifique, mais nous, les citoyens, on a aussi notre part du colibri, si je puis dire.
Bah oui.
Alors, donc, dans sciences participatives, il y a le mot, l'idée de la science. Donc, dans le projet d'Elsa et d'Agnès, c'est la recherche scientifique. Donc, c'est l'activité de production des connaissances scientifiques. Mais la participation, c'est aussi l'implication de citoyens qui peuvent participer à la collecte de données.
D'accord.
Pour enrichir le programme scientifique. Parce que les scientifiques, ils ne peuvent pas être partout, en fait.
Bah non.
Donc, c'est bien qu'il y ait des personnes sur le terrain motivées pour chercher des données et ensuite qu'elles permettent aux scientifiques d'avancer dans leur projet. Donc, ces deux dimensions, recherche et implication citoyenne, forment ce qu'on appelle les sciences participatives.
Ah, d'accord. Et tu as des exemples concrets pour bien que ça parle?
Ouais. Alors, je vais parler d'exemples. Par exemple, je vais commencer, on va traverser l'Atlantique, on va aller aux États-Unis, à dos d'oiseaux migrateurs, avec le projet NestWatch, Nest comme nid en anglais. Donc, c'est un projet de science participative initié par le Cornell Lab of Ornithology des États-Unis. Le but du jeu, c'est de mesurer le succès des nichées d'oiseaux pour plusieurs espèces d'Amérique du Nord. En fait, les observateurs bénévoles doivent repérer un nid et le suivre de la ponte à l'envol des petits. Donc ensuite, évidemment, ces données sont analysées. En France, on a la même chose en collaboration avec la LPO et le Muséum National d'Histoire Naturelle. Ça s'appelle l'Oiseau des Jardins. Mm-hmm. C'est un observatoire. Ça veut dire que n'importe qui, depuis son jardin ou son balcon, hein, quand on est en ville, parce que la faune ne s'arrête pas que dans la nature, il se passe des choses aussi dans les villes. Et du coup, à des dates données, pendant une heure, vous postez devant votre jardin et vous recensez les oiseaux qui viennent picorer ou pas. Et ça, c'est pareil, c'est les sorties qui ne peuvent pas être partout, et comme ça on peut voir le suivi des populations d'oiseaux communs, parce que la faune c'est pas que le rare ou le exceptionnel, c'est aussi ce qui nous entoure, et c'est super important de l'évaluer et de voir comment il évolue. Alors, en plus, ce qui est super, c'est que dans ces programmes-là, on vous apprend à reconnaître un piaf, ou ça peut être un papillon, ça peut être un insecte, et du coup ça vous donne des outils aussi, parce que moi, il y en a beaucoup, certains qui me connaissent, mais c'est vrai que je suis animatrice nature et je pars du principe que quand on connaît, après on a envie de protéger. Donc il faut savoir comment un être vivant, son habitat et tout ça. Par exemple, les scientifiques, si tu veux protéger une espèce d'orchidée sauvage ou une aire maritime ou un bout de montagne, faut d'abord faire un diagnostic et après on va demander des sous ou pas aux institutions pour savoir si effectivement on doit protéger ou pas cette espèce. Des fois, il y a des bonnes intuitions, des fois des mauvaises. Mais c'est vrai que pour lever des fonds publics, on a besoin de savoir déjà le diagnostic.
Mais oui, bien sûr.
Donc, tu as ça. Et il y a aussi, en France, ça s'appelle Viginature. Et donc, c'est des données d'observatoire. Donc, je t'ai parlé, ça peut être des plantes, des insectes, des chauves-souris. Et ces données, donc des données de tout à chacun lambda, peut participer à l'avancée des progrès scientifiques, à une meilleure connaissance, à une prise de conscience. Et ensuite, tout ça, ça aide les scientifiques à faire leur boulot. Alors, ce qui est important aussi, c'est que donc l'objectif scientifique, c'est de décrire les changements que la faune ou la flore subissent, de comprendre les mécanismes de variation, déterminer l'effet de soit de la pollution par exemple, ou le changement climatique, qu'est-ce que ça a comme influence. Après, on peut aller voir les politiques, leur dire là ça se passe pas très bien, est-ce qu'on peut faire des politiques pour protéger ou pas. Donc ça aide aussi à la prise de décision politique d'un territoire.
Oui. Il y a l'impact aussi humain dedans. Je pense tout simplement au fait que plus on est nombreux sur Terre, plus il faut se loger. Donc plus ça prend de place, et la place on la prend aux êtres qui vivaient avant nous.
Oui.
Les petits oiseaux, les petites bestioles,
voilà.
Et tout ça.
Mais tu vois, Yves, moi je pense que, ça encore une fois c'est une conviction personnelle, mais il ne faut pas mettre la nature d'un côté et les êtres humains de l'autre.
Ça serait
bien, il faut qu'on
oui.
trouve ensemble les solutions de cohabiter, parce qu'on fait tous partie de la même maison, et si
oui,
on met tout le monde
fait,
sous cloche, il faut qu'il y ait des liens entre nous. Mais tu as raison, en fait, il faut qu'on trouve un équilibre, qu'on cohabite ensemble, et c'est ça qui est important. Donc savoir comment on fonctionne des deux côtés. Bon, malheureusement, je ne pense pas qu'un oiseau nous dise « Mais pourquoi tu fais ça ?» Mais nous, on peut essayer de comprendre comment il fonctionne dans sa tête, comment son mode de vie peut avoir un impact aussi sur notre vie à nous. Il y a aussi quelque chose d'intéressant qui s'appelle BioLit, c'est les observatoires du littoral. Et donc c'est prendre le pouls du littoral, et ça c'est pareil, en général la science collaborative est toujours chapeautée par un institut scientifique, là c'est souvent donc en France le Muséum National d'Histoire Naturelle, et du coup vous crapahuter, aller voir les petits bigorneaux, compter les bigorneaux qu'il y a sur les algues et tout ça, et ça donne effectivement des indicateurs sur l'évolution du littoral, donc on se rapproche un peu de l'Île-Dieu. Donc et c'est bien parce qu'on peut choisir ses actions, il y a différents degrés si on est complètement néophyte ou si on connaît un petit peu, il s'adapte à tous les publics, et c'est gratuit, on est tout seul, ça me fait penser un peu au projet Odysseyeux, les sentinelles, en fait, avec votre appareil photo, vous prenez en photo l'érosion de la dune en direct, en fait, vous prenez des photos, et ça incrémente une base de données, et comme ça, c'est pareil, donc on peut voir le suivi de l'érosion, parce que Agnès et Elsa, elles peuvent pas être partout sur l'île, et nous, on peut être leurs yeux, quoi, et c'est vraiment un acte citoyen, et en plus, c'est ludique, parce que sur chaque observation, elle peut vous mettre cette application peut mettre des infos sur par exemple l'historique, pourquoi ça s'appelle tel lieu, ou qu'est-ce qui s'est passé, je sais pas moi, un naufrage, ou qu'est-ce qu'il y avait de construit avant ici, enfin ça donne du sens aussi un peu à votre observation, donc c'est un échange dans les deux sens, quoi. Vous donnez l'info, mais on vous en donne aussi, donc ça nous aide à mieux nous impliquer, en fait.
Oui, d'accord.
Donc l'union fait la force, tout le monde peut participer, et ça c'est vraiment, on n'a pas besoin d'être scientifique pour faire avancer le schmilblick, en quelque sorte, on peut prendre
d'accord.
du plaisir, et ça c'est chouette.
Voilà. Donc, pour résumer quelque part, un petit mot comme ça. Les chercheurs qui cherchent, on en trouve. Mais les chercheurs qui trouvent, ils ont besoin.
Faut qu'on les cherche.
Ben, on les cherche peut-être, mais eux, ils cherchent du monde pour les aider à trouver.
Exactement.
Et c'est le truc tout simple, c'est que si un chercheur cherche, il y a 2 yeux. Si on est 10 à chercher ou pour trouver, ça fait 20 yeux.
Hein? Exactement, d'accord. T'as raison.
Alors, et nous, ça serait bien qu'on s'appelle l'île Dieu à ce moment-là.
Ah oui, l'île Dieu, D'YEUX, effectivement, ça, bien, hein? Ça c'est chouette.
Ça serait donc un observatoire intéressant.
Quoi. Oui. Ouais. Et puis aussi, je trouve que ce qui est intéressant, parce que moi, je suis absolument pas scientifique, et ça peut faire peur, comme je disais au départ, mais c'est un petit peu d'enlever les barrières, les, oui, a toujours, priori, oui, tu vois, entre le monde scientifique qui est là-haut, puis nous, on est là, en train de les regarder. Non, on peut travailler main dans
bien
la
entendu,
main.
Oui, oui, oui. Il faut que les barrières tombent.
Voilà,
comme ça,
ça oui, c'est hyper important.
Allez, on va partir donc sur le, en rebondissant un petit peu sur les actions. Merci Sandrine, d'ailleurs, des actions qui ont été faites, des actions collaboratives qui ont été mises en place à ce sujet à l'Île-Dieu, n'est-ce pas, mesdames, je vous en prie, hein, Agnès, Elsa, qui veut parler?
Eh ben moi, je vais prendre le relais. Bah, donc bah oui, effectivement, on a quand même mis beaucoup de choses en place depuis 2018, depuis qu'on a commencé. Et donc la première chose qui me vient en tête là comme ça, c'est le ramassage de plages. Donc puisqu'on a fait rentrer l'Île-Dieu dans le suivi des déchets de plage national. Donc on est un des 50 sites à peu près qui sont suivis au niveau national, et en particulier donc c'est la plage des Sabias qui avait été choisie. Et donc sur ce site, ben on fait des ramassages de plages régulièrement, on les fait le plus souvent possible avec les collégiens. Mmh. Mais en réalité, c'est pas seulement avec les collégiens, puisque il y a toujours en haut de plage soit un bac à marée, soit un panneau qui est là pour collecter justement les déchets aussi, oui, quand on n'est pas là, nous. Et donc, bah, plus il y aura de gens qui participeront à cette action, non seulement en ramassant eux-mêmes ce qu'ils trouvent sur la plage, mais aussi en faisant très attention à ce qu'ils mettent dedans. C'est-à-dire que surtout, puisque c'est un suivi des déchets de plage, il ne s'agit pas d'y mettre des bouteilles, il ne s'agit pas d'y mettre des déchets de pique-nique. Et ben voilà, en fait, c'est de cette manière-là, chacun peut participer à sa manière.
Oui, les bacs à déchets, c'est fait pour les déchets de mer, de la plage.
Hein. Voilà,
c'est
exactement.
Pas, c'est pas une annexe des ordures ménagères.
Hein. Exactement, et puis oui, c'est vrai que bah, nous, puisque justement on fait ces ramassages qui sont suivis de tri et de comptage avec les collégiens, bah, c'est vrai que c'est quand même vraiment pas, bah, cool, oui, quand on collecte des déchets de pique-nique et puis qu'il faut mettre les mains dedans après. Donc, ouais, donc on n'aime pas trop, effectivement, quand ça se passe comme ça.
Il y en aura toujours, parce que les imbéciles, il y en a toujours.
J'espère qu'il y en aura de moins en moins.
Ah oui, mais le problème, ça serait bien, mais bon.
Il ne faut pas qu'ils viennent à l'Île-Dieu, c'est tout.
Oh bah, tiens, tout de suite. Ah ben si, on a droit à nos imbéciles comme ailleurs. Hein.
Bon, alors, oh, d'accord. Un petit quota.
Peut-être qu'ils n'ont peut-être pas besoin de venir, ils sont déjà là, on va savoir.
Bon, alors sinon, si, en termes d'action collaborative, on a aussi les ateliers les yeux dans le sable qu'on avait mis en place il y a plusieurs années maintenant, grâce à la Fondation Nantes Université. Mm-hmm. Et donc on avait acheté des petites loupes numériques qui nous ont permis, comme ça, avec les volontaires, d'étudier les sables de l'île. Donc non seulement les sables à terre, enfin sur les plages, mais aussi les sables en mer, qu'on avait collecté pendant les campagnes en mer. Et donc ça nous a permis, comme ça, d'étudier tous les sables autour de l'île, de voir leur diversité, de comprendre pourquoi ils étaient aussi diversifiés, justement. Et puis récemment, ça nous a permis, dans le cadre toujours de la fête de la science la semaine dernière, de créer les podcasts 30 nuances de sable, donc qui, oui, qu'on peut écouter toujours sur le site Neptune FM, et qui, mmh, qui sont des podcasts artistico-scientifiques, donc qui expliquent ce qu'on a vu justement dans les sables de l'île, et en même temps qui permettent de mettre en valeur les textes qui avaient été rédigés par les personnes qui ont participé, et donc qui sont des textes plus poétiques, d'écriture sensible, on va dire, et qui étaient vraiment très, très très sympa.
Bah oui.
Et du coup, moi j'enchaînerai, parce qu'il y a vraiment un protocole qu'on a inventé ici pour Odysseyeux, c'est les sentinelles de la côte. Mmh. Et donc c'est une façon de suivre en 3D des portions comme ça du littoral, de la dune, ou même un des endroits où il y a un peu de roche. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été mis en place ici par une boîte de l'île, donc Digiscan 3D, et qui nous permet de suivre tous les mois, depuis maintenant quasiment 3 ans, l'état et l'évolution comme ça de la dune. Au fur et à mesure, ben, quand il y a des tempêtes, quand il fait beau, quand il y a des gens qui passent, et ainsi de suite. Mmh. Et cette méthode, elle donne vraiment des résultats extraordinaires, et on est hyper intéressés, donc on en reparlera après, justement, quand on sera un peu sur les résultats.
Bah oui.
Et c'est quelque chose qui est tellement intéressant qu'on a réussi à intéresser d'autres gens, hein, Et probablement, enfin c'est pas probablement, on a déjà, on est en train de tester en Bretagne Nord, et donc c'est vraiment quelque chose qui est qui montre des résultats très très intéressants. Et l'autre chose que sur laquelle je voulais insister, moi j'étais particulièrement sensible à ça, c'était les entretiens qu'on avait menés déjà ici, dans cet endroit avec des vrais gens d'ici que l'on a pu interroger, qui nous ont raconté des choses qui étaient vraiment importantes pour nous, pour comprendre mieux certains systèmes de l'île et d'échanger en vrai avec des gens. Et c'était aussi des réunions publiques, et entre autres je me souviens d'une réunion publique où on était, je sais plus dans quelle salle là, une grande salle par là-bas, où on avait la grande maquette. Et on a pu échanger devant cette grande maquette en racontant comment le niveau marin a monté. Et en même temps, on entendait dehors la tempête qui arrivait. Et c'était vraiment très, très bien. On était dedans. Et donc, ces réunions publiques, elles sont extrêmement intéressantes parce qu'elles permettent d'échanger les points de vue des scientifiques, des gens qui habitent l'île, et toute cette perception qu'on peut avoir comme ça, bah, du danger ou pas du danger, ou même simplement, qu'est-ce que c'est qu'une île. Et donc, voilà, là, on a fait vraiment des échanges qui étaient aussi riches. J'espère pour les habitants, mais en tout cas pour nous, les scientifiques, c'était hyper intéressant.
Ouais, bah, il y avait cette maquette qui a été exposée aussi quand il y a eu la fête à la ferme ouverte de Coq-à-l'âne.
Oui, la dernière fois qu'elle a été montrée, c'était vraiment la ferme.
On la reverra, cette maquette, un jour ou l'autre ?
Alors, cette maquette, pour l'instant, elle est repartie sur le continent. Elle a été exposée tout l'été à Biotopia, donc elle n'était pas partie loin. Elle était juste à Fromentine.
Elle n'était pas encore dans un tiroir.
Oui, elle vient de servir comme une folle pendant 3 jours dans la Halle 6, près des machines de Lille à Nantes.
Ah ouais ?
Grand succès, ça a été vraiment très très chouette. Donc, elle tourne, c'est une maquette volante. Presque.
Donc on parle de l'île Dieu partout alors.
Ah bah on parle de l'île Dieu partout. Et puis alors, faut se rassurer, pour l'île Dieu, on a une nouvelle maquette maintenant, depuis quelques mois, qui vient d'arriver là sur l'île, et qui la première maquette, elle prenait l'île, les abords sous-marins de l'île, et puis elle allait jusqu'au continent. Et du coup, ça faisait que l'île pour nous était un peu petite, et donc là la nouvelle maquette, c'est que l'île Dieu. Donc là, du coup, on va vraiment pouvoir projeter des choses hyper précises sur la maquette, et donc on va pouvoir vraiment discuter
de l'évolution
de l'île et de sa structure géologique, etc. Et donc ça, c'est un dispositif typiquement qui est à la fois qui permet de faire des choses hyper précises d'un point de vue scientifique, et en même temps qui a un côté hyper poétique, hyper artistique. Et ça, c'était vraiment une des volontés qu'on a, nous, depuis le début du projet Odysseio, c'est de créer comme ça ces passerelles artistico-scientifiques, parce que c'est des passerelles qui fonctionnent vraiment à double sens, et comme le disait Agnès, ça nous permet de diffuser nos connaissances, mais ça permet aussi de drainer les connaissances des gens qui sont sur le territoire. Et c'est vrai que on ne peut pas être partout, et qu'on n'a pas des yeux partout tout le temps. Et donc, comme disait Sandrine tout à l'heure, on a besoin de cette collaboration en permanence.
Oui. Alors, vous avez besoin des associations aussi?
Bien sûr, les associations dans cette histoire-là, c'est vraiment des relais majeurs, parce que elles ont une visibilité beaucoup plus importante. Donc on essaye toujours, nous, de faire les deux, c'est-à-dire de privilégier les associations qui drainent beaucoup de personnes, etc. Et en même temps, quand même aussi, de toucher les gens d'un point de vue plus personnel et individuel, pour arriver à contenter tout le monde et à trouver des façons de toucher tout le monde.
À ce propos, mais que vient faire Yeux demain là-dedans, Sandrine, pourrais-tu nous le dire ?
En fait, quand Elsa est venue nous voir au sein d'Yeux demain, il y a quelques années maintenant, on a tout de suite été emballés par le projet, parce que l'érosion des côtes, je pense que ça a un impact sur la vie de chaque insulaire que nous sommes. C'est aujourd'hui et surtout demain, quelles sont les décisions qu'on va prendre pour que ce soit le plus confortable possible pour nous. Et la protection de l'environnement. Donc ça, c'est vraiment ce que nous, on défend. Et surtout, justement, le projet d'Elsa et d'Agnès, moi, ce que j'aime beaucoup et ce qu'on aime au Centre Dieu demain, c'est justement de faire partager au plus grand nombre l'avancée des recherches, et surtout de dire on a besoin de vous. Et nous, en tant qu'asso, comme vous à la radio locale, c'est de faire le lien entre les différents citoyens, les gens du territoire, donc soutenir un projet de cette sorte, c'est évidemment avoir peut-être de temps en temps faire un soutien financier ponctuel, c'est ouvrir un réseau, c'est faire communiquer autour de ce projet, participer par exemple à la fête de la science, donc comme en ce moment. Donc voilà, c'est C'est comment nous, notre réseau, nos compétences, on peut les allier à celles du projet Odysseye pour que ça fasse tache d'huile. Pour une fois, c'est pas de la pollution, hein, mais pour que de plus en plus de personnes, déjà, qu'il y ait une prise de connaissance, ensuite une prise de conscience et qu'on bosse tous main dans la main. Voilà.
Mais justement, puisqu'on parle beaucoup d'environnement, il faut savoir que l'environnement, c'est ce qui nous environne. Et si on veut bien vivre dans l'environnement, il faut peut-être s'en occuper, comprendre comment ça fonctionne, et puis pas se conduire en conquérant.
Non, oui, pas être prédateur, en fait. Hein.
Bah oui, voilà.
Ça marche pas comme ça, en fait. Donc voilà, donc lieu de voir, et puis je pense plein de personnes comme vous aussi, si vous accueillez le projet et en parlez, en fait, c'est un projet qui a beaucoup de sens, et plus on est conscient, plus ensuite, donc on connaît, et ensuite on peut agir. Et agir, on a besoin d'avoir des données, et donc n'importe qui peut récolter, les plongeurs, ceux qui sont, même qui font de l'avion, enfin, ceux qui se promènent, enfin, tout le monde peut récolter des données. Et ensuite, eh bien, les scientifiques font leur travail avec, et c'est un chouette projet collaboratif, en fait.
Merci Sandrine, je crois que tu es obligée de repartir parce que tu as des occupations, bah oui. Donc on va continuer l'émission sans toi, mais on va faire d'abord une petite pause musicale. Merci en tout cas Sandrine d'être venue nous rejoindre sur ce plateau. On va continuer après avec Elsa et Agnès, mais une petite pause musicale avec Pierre Barou qui lui nous demande de décrocher la terre.
Mais qu'est-ce que t'as, dis-moi, à me regarder comme ça? Comme si t'étais folle de moi. Ça m'est arrivé tant de fois d'être amoureux, et chaque fois elle me demandait chacune pour elle de décrocher la lune. Décroche-moi la terre, puisque d'autres viendront le faire, sans le prétexte aussi sérieux que le caprice d'un amoureux. Décroche-moi la terre, puisque d'autres viendront le faire. On le sait bien, c'est en sursis, quand ce monde elle vit, elle aussi. Mais qu'est-ce que t'as, dis-moi, à me regarder comme ça, comme si t'attendais tout de moi. Comment pourrais-je t'expliquer pourquoi la lune s'est cachée la face? On peut imaginer des raisons qui vont tout gâcher. Décroche-moi la terre, puisque d'autres viendront le faire. Qu'elle en ait plus pour très longtemps ne peut rien changer à l'instant. Décroche-moi la terre, allons faire un tour d'univers. On a la chance de rêver autant qu'on soit dans les premiers.
Toujours l'émission Un cheveu sur la loi. Oh, un cheveu sur la langue, un poil à la main. Excusez-moi, je bafouille. C'était monsieur Pierre Barou qui chantait Décroche-moi la terre. Et on reçoit, c'est une émission spéciale. On reçoit aujourd'hui, je vais y arriver, mais vraiment, je fabouille, c'est incroyable. Alors, Elsa et Agnès, ça y est, je ne fabouille plus, qui nous parlent du projet Odysseye. Et surtout, c'est pas la fin du projet, ou c'est un début ou une fin? Comment c'est en fin de compte? Alors, ça, parce que il y a quand même presque 4 ans, que les différentes initiatives collaboratives, on commence à voir les premiers résultats avec ces choses-là. Mais est-ce que c'est fini? Comment ça se passe après?
Eh ben, ça se passe qu'on commence à avoir des vrais résultats et qu'on pense qu'on va... Ah oui, oui, des vrais.
Ah bon?
Et qu'on a eu vraiment des réponses qui étaient tout à fait incroyables, je dirais, sur plein de sujets.
Ah bon, et par rapport aux déchets des plages, par exemple?
Alors, déchets des plages, je vais laisser Elsa, elle est vraiment top sur les déchets des plages.
Voilà, bon, d'accord. Ah, tu as dit à moi qu'il faut ramasser les poubelles, il y a du monde.
Ah
là.
Bah ça, ah, forcément.
Voilà. Toujours sur la brèche. Bah, ouais. Ouais, alors, bah, au niveau des résultats du ramassage des déchets de plage, déjà, au Sabia, on a ramassé plus de 300 kilos de déchets en l'espace de 3 ans.
Ah bah, dis donc.
Et puis surtout, bah, on se rend compte que ces déchets, c'est essentiellement des plastiques. Hein. Il y a plus de 90% des déchets qu'on collecte, c'est des plastiques. Alors après, quand on les trie, bon, évidemment, nous, on regarde vraiment dans le détail, mais dans les grandes lignes, en gros, on a un quart de déchets qu'on peut pas identifier. C'est des morceaux de plastique qui viennent un peu de ci, de là. Et souvent, c'est des petits morceaux hein, qui font moins de 2 cm. Donc, évidemment, quand on a un petit bout comme ça, on ne peut pas savoir ni d'où il vient, ni ce que c'était au départ. Donc ça, c'est pour à peu près un quart. Ensuite, on a un quart qui sont liés à des déchets de pêche. Alors, c'est pas les déchets de pêche nécessairement des pêcheurs d'ici. Hein. Vous savez, les petits bouts de verre là, qui sont des morceaux des bouts de ramandage qui permettent de réparer les filets, les chaluts surtout. Et donc ces petits bouts-là, on en récupère énormément. Donc ça, c'est vraiment des morceaux qui transitent dans le golfe de Gascogne, un peu autour de l'île, et puis qui se retrouvent à venir s'échouer sur l'île. Et puis après, ben, on a la moitié de tous les déchets qu'on collecte qui vraiment sont liés à la consommation humaine. Donc au Sabia, la particularité des Sabias, c'est qu'on a énormément de bouteilles plastiques. Et donc ça, on pense qu'en fait, c'est lié directement à la Loire, que ce serait la Loire qui rejetterait des morceaux de bouteilles plastiques et que ces bouteilles sortiraient de l'embouchure de la Loire et puis reviendraient jusque dans le nord de l'île. D'ailleurs, c'est assez marrant parce qu'on a des disparités entre les plages. On ne retrouve pas les mêmes déchets sur toutes les plages.
Ah bon ?
Et donc, au Sabia, justement, bah, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup de bouteilles plastiques. Ce n'est pas que les Sabiens, hein, c'est les sables rouillés aussi. Mm-hmm. Mais dans ce coin-là de l'île, on a...
Les courants porteurs de la Loire pour être là. Et ceux qui remontent de un peu plus loin que les sables, non ça...
Ben, en tout cas, nous, ce qu'on voit, c'est que les morceaux de bouteilles, ils sont blanchis. Donc, ça veut dire qu'ils ont été exposés aux UV pendant assez longtemps.
Ouais.
Et ils sont justement vraiment en morceaux. C'est finalement assez rare qu'on ait des bouteilles complètes. Donc, ça laisse penser quand même qu'ils ont eu un transport assez long. Donc, c'est vrai que ça correspond assez bien avec la Loire et qu'ils auraient pu être déversés comme ça depuis le continent et puis nous arriver tout simplement avec les courants. Et comme en plus ils arrivent dans le nord de l'île, enfin dans le nord-ouest, je veux dire, il y aurait une cohérence.
Je me permets d'un. Parce que justement, on a des collègues là qui bossent sur les trajectoires du plastique dans la Loire et ils ont mis des petits capteurs de position dans des bouteilles en plastique qu'ils ont jetées exprès dans la Loire pour voir. Ouais, c'est moche. Et qui poursuivent justement le trajet de ces bouteilles et elles ne sortent pas en fait. Elles font plein d'allers-retours dans la Loire avant de rester coincées sur des rives à cause de la marée. Donc on est toujours dans cette alternance. La Loire descend, la Loire remonte à cause de la marée. Et ça met très longtemps probablement une bouteille à sortir de la Loire. C'est pour ça qu'on retrouve des bouteilles blanchies jusqu'ici.
D'accord.
Et c'est justement quand même un des programmes juste qu'on aimerait faire pour tester. C'est prendre une bouteille avec ces fameux petits capteurs dedans pour trouver sa position. Mmh. La lâcher, mais probablement à Saint-Nazaire ou quelque chose comme ça. Pour voir si on est capable de la voir suivre son trajet.
Ouais.
Et combien de temps elle mettrait pour venir jusqu'au Sabia par exemple.
D'accord.
Ça fait partie des petits projets qu'on a.
Oui, autrement, et à part ça, à part les bouteilles, il y avait aussi, qu'est-ce qu'il y a?
Il y a tout plein d'objets usuels, des pinces à linge, des brosses à dents, des choses comme ça. Donc c'est vrai que là-dessus, c'est intéressant parce que ça nous donne vraiment des pistes à tous. En fait, d'ailleurs, c'est le but de ce suivi au niveau national. Hein. Vraiment de montrer quelles sont les sources sur lesquelles on peut agir. Mmh. Et cette source domestique, elle est vachement importante et vachement intéressante parce qu'effectivement, là, chacun peut vraiment agir à son niveau. C'est vrai que souvent, on entend les gens dire « bah oui, mais nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne sait pas quoi faire ». Ben en fait, si quand on dit il faut pas consommer de bouteilles en plastique. Il faut essayer de réduire l'usage des bouteilles en plastique. Il faut mieux utiliser une brosse à dents en bois plutôt qu'une brosse à dents en plastique, etc. Bah oui, parce qu'effectivement, c'est clairement ce que montre ce suivi. C'est qu'en fait, c'est bien ça qu'on retrouve, nous, sur les plages. Les cotons-tiges en plastique, les bâtons de sucette, les gourdes de compote, voilà, les bouchons qui vont avec, enfin voilà, toutes ces choses-là qui sont vraiment usuelles et qu'en fait on retrouve systématiquement et qui composent plus de 50% de l'assemblage.
Et il y a aussi maintenant des solutions, là, justement, puisqu'on parlait des déchets de pêche ou des filets de pêche et tout ça. Il commence à y avoir vraiment des avancées, hein, pour des nouvelles matières faites à base d'algues et de choses comme ça. Mm-hmm. À Groix, ils ont commencé à faire des filets qui sont faits en algues, donc qui sont très résistants quand même, mm-hmm. mais qui sont après, ils sont perdus ou crochés au fond.
Ils sont biodégradables.
Ils vont se dégrader, voilà, c'est ça.
Et donc, ils ne vont pas continuer à pêcher dans les fonds.
Non. Et c'est ça qui est vraiment. Voilà, au moins, on a identifié deux, trois choses qui étaient déjà identifiées, mais on va de l'avant et on sait vers où on peut améliorer nos consommations, en tout cas.
Oui, bien sûr. Oui. Ah, on fait une petite pause musicale, comme vous voulez, ou on continue, c'est vous qui voyez. Mesdames, un peu de musique.
Allez, musique.
Je vous propose Jeanne Charal, tiens, une nantaise. Jeanne Charal, pardon, pas de Charal. Charal, c'est autre chose. Charal, c'est une chanteuse, elle a deux sœurs, mais ça, c'est Jeanne qu'on entend. Une nantaise, d'ailleurs. Et elle a une chanson qui s'appelle L'eau, tout simplement, comme on est en plein dans l'eau. Hein, et puis qu'on parlait de la Loire, ça fait bien, ça fait le lien, comme ça. Jeanne Charal, L'eau.
Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me surprend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait plonger. Même l'eau de mer au cœur de l'hiver me détend. Même l'eau chlorée, l'eau décolorée me fait nager. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait sourire. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts, même la boue. Même l'eau de pluie, l'eau des matins gris me fait frémir. Même l'eau qui boue et l'eau des égouts sont à mon goût. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et qui endort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau du bouillon. Même l'eau qui saoule, l'eau de vie qui coule et l'eau qui dort. Même l'eau qui fond, l'eau dans les glaçons, l'eau qui rencontre. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de l'aisselle. Même l'eau brouillée, l'eau que j'en ai marre d'être mouillée. Même l'eau du corps, l'eau qui s'évapore, l'eau de vaisselle. Même l'eau qui pue, l'eau qu'elle en a marre d'être bouillue. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Oh, c'est l'eau, c'est l'eau, c'est l'eau qui m'attire, c'est l'eau. Même l'eau des larmes comme un vacarme dans les yeux. Même l'eau des pleurs arrose les fleurs de mes aïeux. Et l'eau de ta bouche quand je la touche avec la mienne. C'est l'eau qui me va, celle que je bois comme un poème.
Jeanne Charal, l'eau. Oh, c'est mignon, non?
C'est
hein?
Super.
Non, mais sans blague.
Oui.
Alors, donc on a parlé de la mer des déchets, tout ça, ce que la mer nous rapporte. La mer aussi, ce qu'elle fait, elle grignote un petit peu, elle l'érode. Est-ce qu'il n'y a que la mer qui fait que l'érosion, c'est dû uniquement à la mer ou est-ce qu'il y a le vent, est-ce qu'il y a tout simplement le mouvement de la terre, quoi?
Oui, alors effectivement, dans le cadre du suivi qu'on a mis en place sur les plages, donc Sentinelle de la Côte, hein, dont parlait Agnès tout à l'heure, en fait, ce suivi, mois par mois, sur 9 sites, il nous a permis de vraiment mieux quantifier, et mieux observer, en fait, quels étaient les processus liés à l'érosion. Et c'est vrai que sur les 3 dernières années, finalement, on s'est rendu compte que les processus, déjà, ils étaient beaucoup, beaucoup plus nombreux que ce à quoi on pouvait s'attendre au départ. et que notamment par exemple la pluie et les infiltrations mmh. avaient vraiment un impact très très fort et finalement beaucoup plus fort peut-être que le mauvais temps, en tout cas en période calme, c'est-à-dire que là finalement sur les trois dernières années on n'a pas eu énormément de tempêtes. Donc ce qu'on a observé là c'est un petit peu plutôt une période calme mmh. au niveau des tempêtes et donc à ce moment-là bah, c'est vraiment la pluie qui est le facteur le plus important dans l'érosion. Alors au départ c'est vrai qu'on se disait bah, c'est le ruissellement tout simplement mmh. qui va embarquer le sable de surface et puis en fait on s'est rendu compte qu'à certains endroits c'est plutôt la pluie, l'eau quand elle s'infiltre à l'intérieur des sols
oui.
elle va aller rejoindre la plage mais non pas à la surface de la dune mais plutôt à la base et en fait voilà, du coup elle va embarquer une partie du sable plutôt à la base de la dune ou même au niveau de la plage et c'est ce qui va faire notamment qu'à certains moments on a c'est vraiment bon. Le sable de plage qui dégage vers l'avant-plage, donc vers le large en fait, et le pied de dune qui s'en va, mais ça c'est beaucoup plus finalement lié à la pluie que ce qu'on pensait. Et puis après, bah, le suivi, il a permis aussi de montrer l'action humaine. Oui. Et donc là aussi, on se rend compte qu'on a l'action humaine actuelle qui a tendance à beaucoup dévégétaliser. Oui. Bon, bref, ça enlève oui. la végétation voilà, sur le ça. Dessus de la dune. et donc ça pose énormément de problèmes parce que bah, justement, ça facilite le travail de la pluie puisque du coup, comme il n'y a plus de végétation, oui. elle s'infiltre encore plus vite.
Ah, oui.
Et puis, ça a un effet aussi dans l'autre sens, ça facilite aussi l'évaporation. C'est-à-dire qu'une dune, normalement, elle a une espèce d'humidité constante à l'intérieur qui facilite sa cohésion. Sauf que s'il n'y a plus du tout de végétation sur le dessus, en fait la dune elle passe son temps soit à être complètement sèche et à s'évaporer complètement parce qu'il n'y a plus de végétation qui fait tampon, soit au contraire dès qu'il pleut à être complètement imbibée. Et donc là du coup forcément on augmente sa facilité à être érodée parce qu'un tas de sable qui passe alternativement de tout mouillé à tout sec, et bah forcément il s'écroule beaucoup plus vite qu'un tas de sable qui resterait un peu humide mais pas trop et qui serait végétalisé sur le dessus.
Bah c'est le paradoxe, je trouve, moi je les appelle les décathlonistes, c'est pas gentil, ceux qui se croient obligés d'avoir des bâtons puis des putains de chaussures à crampons pour grapahuter sur la dune par troupeau de 15, et qui croient faire des trucs écologiques, non.
Ben voilà, y a certaines
dune,
actions humaines.
Une paire de baskets, ça suffit. Il n'y a pas d'avoir pied des bâtons, ça ne sert strictement à rien. Et on peut faire attention, quoi. C'est-à-dire que quand le pied de mendi dune, c'est incroyable. Les gens ne vous croient pas. Et c'est pareil pour les vélos, avec les vélos tout-terrain qui passent dans les chemins. Un vélo qui passe, ça va. Faut pas oublier le nombre de vélos de location qu'il y a sur l'île-lieu. Faut pas oublier le nombre de personnes qui viennent voir l'île-lieu. Ils ont raison. Mais c'est vrai que c'est fragile, la dune. C'est très fragile. C'est et le piétinement fragile. Constant et le roulement constant, ben.
Les plantes de dunes, en plus, c'est la même chose sur les pelouses littorales. Hein, c'est des petites plantes qui mettent du temps à pousser.
Oui, tout à fait.
Donc c'est vrai que si elles sont dégradées, après le temps qu'elles recolonisent un endroit qui a été complètement dégradé, ça prend vraiment du temps. Et s'il continue à y avoir du passage, elles arrivent tout simplement pas à reprendre le dessus. Et alors cette fréquence, justement, c'est assez marrant parce qu'on l'observe pour les humains, évidemment. Et là où on était surpris, c'est qu'à certains endroits, on a aussi la fréquence du passage des chiens. On a des endroits dans certaines dunes, notamment à la Gournaise, où en fait on a remarqué que les chiens avaient tendance à passer à un endroit précis parce que c'est facile pour eux, j'imagine, de descendre sur la plage. Et en fait, à ces endroits-là, ça concentre aussi l'érosion. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, quand les chiens ils montent et qu'ils descendent sur la plage en permanence. C'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les adultes. Ça fait de la fréquentation. Et cette fréquentation-là, encore une fois, une fois ça va, 10 fois ça commence à être la galère. Et puis quand c'est des centaines de fois,
C'est vrai que quand il y a une personne ou deux qui se promènent, ça va. Quand on est rendu à des centaines de personnes, malheureusement, il faut à un moment prendre des mesures parce que ça supporte pas, quoi.
Oui, et puis c'est vraiment des mesures de responsabilité personnelle parce qu'effectivement, quand on va sur une plage, on aime bien être un peu tout seul, être un peu tranquille, et puis là, du coup, on se sent tout seul, mais en fait, il faut pas oublier que, on est tout seul à un instant T, mais finalement, à l'échelle d'une journée, on est à passer.
On est chacun tout seul à un instant T. Et moi, je voulais juste rajouter que, quand même, la bonne nouvelle pour tout ça, c'est que, donc finalement, on s'est aperçu sur les cas qu'on a observés, c'est qu'on a donc du sable qui tombe du haut de la dune en bas de la dune et que la mer, elle ramasse ce qui reste. Donc en fait, le problème, il est plutôt à terre Et donc, oui. Nous, on est à terre. Et donc là, on peut quand même agir justement sur ces processus-là qu'on a identifiés, la fréquentation humaine et même canine. Mmh. Et donc là, un petit peu, on peut imaginer mettre des choses en place, c'est-à-dire mettre peut-être des petits pontons, des petits endroits comme ça, où au lieu de piétiner directement la dune, on est un peu en hauteur et on laisse comme il faut se solidifier la dune. Mmh. Et c'est surtout qu'il faut vraiment respecter le plus possible toutes les petites plantes, tout ce qui peut vraiment fixer la dune et lui permettre d'absorber de l'eau, ça c'est important. Surtout sachant que là maintenant on va aller vers des périodes justement où le climat il change un petit peu, on l'a un peu compris. Où on va avoir des périodes qui sont très sèches et puis après plein de précipitations. Et ces précipitations, elles vont être d'autant plus efficaces hein, s'il faut qu'elles découpent et en suivant les chemins là, des prédunes. Donc voilà, là je pense qu'il y a des petits aménagements à faire qui pourront être faciles à faire entre guillemets et qui vont être vraiment efficaces et qui vont vraiment protéger les dunes. Donc c'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on peut agir déjà nous à terre pour préserver ces dunes qui sont notre grande force contre la remontée du niveau marin.
Absolument. Donc, pour ne pas avoir le mal de vivre, par exemple, ben, il faut penser à la terre puis la laisser vivre, pas lui donner un mal de terre. N'est-ce pas ? C'est Xavier Lacouture qui chante mal à la terre. Écoutez bien les paroles, ça donne à réfléchir.
Je m'appelle la terre. Entrez, vous êtes ici chez vous. Pour ma santé, faut pas s'en faire. Je suis en observation, c'est tout. Et je tourne autour du sommeil, couché sur l'étoile de mon lit. Un médecin sans frontières surveille ma température jour et nuit. Je souffre de l'Afrique gastrique. À chaque repas entre œsophages, les luttes intestines me ravagent. Le gros colon fait du trafic. Au cœur de l'Amérique, l'anémique. Les rouges haïssent les globules blancs. De chaque côté des Pacifiques et moi, je me fais du mauvais sang. C'est grave, docteur. J'ai mal à la terre, bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par an, je crois que je fais de la tension. Une douleur me transperce l'épaule, les os sud en polynévrite. On m'a fait péter un atoll. Je sens plus rien, docteur, faites vite. Et je respire pas bien près des côtes. Malaise ou de l'asthme de Panama. Je transpire, j'étouffe, je suffoque. Je crois que c'est le régime qui me convient pas. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Près du poumon, j'ai comme de l'oppression. Je voudrais retomber en enfance, au pays des petits bobos, des maladies sans conséquences, qui portent des noms d'oiseaux. Écouter chanter les rougeoles, à regarder passer les oreillons, voir les varicelles qui s'envolent et reviennent selon la saison. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Je suis devenu un continent, j'urine mon troisième océan. Tropique du cancer, je trouve plus jolie la pleurésie. Dans le crachin du bord de la mer, j'attendrai sagement l'embellie. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther.
tourne par rond, un peu d'affection. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par rond, ça tourne par rond, ça tourne par rond. C'est grave, docteur, j'ai mal à la terre. Bizarre, cette odeur d'éther. Ça tourne par rond, un peu d'affection.
Xavier Lacouture, mal à la terre. Ah ouais, c'est vrai que bon, après, il y a des fois où voilà, elle a même la pauvre terre, elle a quelquefois des ennuis gastriques. Bon, on va continuer avec le patrimoine, parce que aussi quand on parle du projet Odysseyeux, bien sûr il y a tout ce qui concerne la géologie, on peut le dire comme ça, mais aussi le patrimoine. Hein, parce que, bien sûr, le patrimoine, il est un peu changé à cause de ce qui se passe, mais justement, ce qui s'est passé lundi aussi, vous avez, vous, fait des enquêtes sur comment était l'île du Havant, comment on y vivait, etc., un peu, oui.
Oui, et puis, alors, moi, je prends la parole, parce que moi, j'ai été très, très émue, on va dire, par la grande découverte qui a été faite. C'était juste à la fin du confinement. Mmh. Et donc, c'était une dame qui a contacté Elsa en lui disant « Ouh là là, c'est horrible, là, j'ai vu sur ma plage, donc on était à la plage des Sapins, mmh. et qui a dit « Ah, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de nappe de pétrole ou de truc bien noir, bien moche, là, mmh. sur la plage. Vite, 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 il faut faire quelque chose. » Donc, Elsa y est allée, et elle a vu que c'était absolument pas du pétrole, et qu'au contraire, ça pouvait être quelque chose qui était très intéressant pour nous, qui traquons le niveau marin un peu partout, et que mmh. ça pouvait être de la tourbe.
Ah bon?
Et donc, je me souviendrai toujours là, de Elsa qui m'a envoyé une petite photo de ça là, par le téléphone portable. Et moi, j'étais en voiture et j'ai vu cette photo qu'elle m'a envoyée. J'ai dit, oh, c'est trop fort, on dirait que c'est de la tourbe. Et je connais un peu la même qui existe dans la baie du Mont-Saint-Michel.
Ah ouais?
Et c'était d'autant plus génial qu'il y avait dedans des traces de bovidés, donc des traces de vaches, en gros, on va dire. Oui, exactement, la vache meut. Et donc, on a organisé le plus vite possible une petite mission ici pour venir voir de près ça et puis faire des prélèvements, hein, parce que nous, quand même, le scientifique, il aime bien faire des petites carottes, des petits prélèvements, des petites datations et tout ça. Et c'était magique, parce que quand on a fait tous ces petits prélèvements et qu'on a fait surtout les datations, on s'est aperçu que donc sur la plage des Sapins, en bas de plage, hein, on se retrouvait avec de la tourbe, c'est-à-dire que la tourbe, ça, c'était un ancien marais qui était lui-même derrière une grosse dune qu'il y avait devant. Et donc cette tourbe, elle était datée de 3000 ans.
Ah bon? Mais alors, où était la plage des pêcheries? C'était où alors?
Eh bien, ça veut dire que c'était juste en amont, enfin c'était le marais était derrière la grande dune. Donc, il fallait imaginer que la dune, elle était beaucoup plus dans l'eau actuellement qu'elle ne l'était. Et ce qui était super joli, c'est que cet affleurement de tourbe, donc c'était une espèce de fenêtre sur le passé là, qui s'est ouvert pendant un mois et demi exactement. Parce qu'après, ça a disparu.
Ah bon?
Recouvert, érodé par la mer justement, qui n'arrête pas d'enlever les preuves au fur et à mesure. Et donc, si on n'avait pas eu cette dame qui nous avait dit « Oh, venez voir, il se passe quelque chose », on serait passé à côté de ce qui est vraiment une découverte scientifique, hein, qui va faire l'objet de vrais papiers scientifiques très importants. Et ça nous donne une petite indication sur le niveau marin, il y a 3000 ans.
Tout le rôle des sentinelles de la mer.
Exactement.
Et on parlait des yeux, l'île Dieu au sans yeux.
Oui, avec un EUX, je crois E-U-X, qu'on peut bien, on va l'appeler comme ça maintenant.
Oui.
Et donc voilà, c'est ce niveau marin qui change, et justement, plus on sait comment il a changé dans le passé, plus on va être capable de regarder devant nous par où il va aller, vers où il va aller, et comment il va remonter, puisque c'est ça qui nous intéresse, c'est le futur.
Bah oui, parce que pour comprendre l'avenir, penche-toi sur l'avenir, je pense que c'est sur le passé, hein. Si ça a changé d'une certaine façon, comment ça va évoluer après? Ça, on fait des présomptions. Est-ce qu'on peut mieux réfléchir à ce qui a se passé plus tard, quand on a bien compris ce qui s'est passé avant?
Oui, c'est exactement ce qu'on cherche à savoir ici, et c'est pour ça qu'on essaye de regarder vraiment ce qui s'est passé dans le temps long, il y a longtemps sur l'île Dieu. Et donc là, avec cette histoire de tourbe, on est remonté il y a 3000 ans. Avec la maquette, on était déjà même remonté à plutôt il y a 10 000 ans, 15 000 ans. Donc là, on avait bien vu que le niveau de la mer, en fait, depuis la dernière période glaciaire, depuis 18 000 ans, en fait, il a fait que remonter. Et donc ce qui explique pourquoi il y avait avait un marais au sapin il y a 3000 ans, c'est tout simplement parce que le niveau de la mer il était un petit peu plus bas et que du coup il y avait une dune un petit peu plus bas aussi, et derrière cette dune bah il y avait un marais, et puis donc on a essayé aussi de remonter encore plus loin dans le temps, et là quand on passe à plutôt 100 000, 120 000, 130 000 ans, et ben il y a 130 000 ans en fait on se rend compte que le niveau marin était plus haut que le niveau actuel. Ah oui. Il était plusieurs mètres plus haut que le niveau actuel. Donc ça nous intéresse aussi beaucoup parce que ce niveau marin particulièrement haut, il a laissé des traces dans la morphologie de l'île. Et donc c'est ce qu'on a fait là cette année avec les collégiens du collège d'Issy-Cardière. On est allé plusieurs fois sur le terrain et on a essayé d'aller chercher les indices de ce haut niveau marin et comment essayer de comprendre comment il avait marqué la morphologie de l'île, parce que forcément, bah, si le niveau marin remonte maintenant, à un moment donné, on va revenir, à cette espèce, à cet état d'il y a à peu près 130 000 ans.
Ah oui, d'accord. Et après, ça risque de redescendre comme. Il y a un balancement tout le temps, en fin de compte.
Voilà, en fait, il y a sur le dernier million d'années, il y a eu comme ça plein de battements avec des hauts niveaux, des bas niveaux marins. Ça a évolué. Alors, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le niveau marin, finalement, dans ces battements, il évolue sur en gros une fourchette d'une centaine de mètres. Donc, ah oui, ça peut monter de plus 50 mètres ou descendre de moins 50 mètres, on va dire. Et donc là, en ce moment, on est plutôt sur un haut niveau déjà. Mais on sait qu'à certaines périodes, dont il y a 130 000 ans, c'était encore un petit peu plus haut qu'à l'heure actuelle. Et effectivement, bah là maintenant, bon, on est plutôt sur un haut. On a les calottes glaciaires qui commencent à se mettre à fondre très 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 sérieusement. Oui. Donc on sait que ça va encore monter dans le futur. Par contre, on a du mal encore à évaluer véritablement de combien ça va monter. Et donc là, nous, l'idée de regarder comment ça s'est passé dans le passé, bah, c'est de se dire... ça va nous permettre de nous donner des jalons, quoi, et de nous dire, bon, bah, si ça monte de temps, voilà la morphologie qu'aura l'île. Si ça monte encore un peu plus, voilà ce qui va se passer. Et donc, ça nous permet, comme ça, de reconstruire un peu des espèces de cartographie à l'envers, en fait, de cartographie de comment ça s'est passé avant, qui nous permettent finalement de nous dire, bon, bah, voilà comment ça va se passer si ça se reproduit à nouveau et si le niveau marin monte.
Ça, c'est toujours un peu cette façon de faire des allers-retours entre passé. C'est le passé qui éclaire l'avenir, ben hein, oui, c'est faire ses allers-retours. Et là aussi, la bonne nouvelle, j'en parlais avec Elsa.
Bien, si ah, mais
oui, on a décidé
qu'on avait des bonnes nouvelles. C'est vraies bonnes nouvelles.
Ouais. On a marre des mauvaises, ça va bien.
Oui. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup de sable hein, qui est stocké sous l'eau, là, entre ici et les pays de Mont. Et ce sable, il est assez stable. Il est assez coincé parce qu'en fait, comme il y a des grosses tempêtes qui arrivent dans le derrière, on va dire, de l'île-Dieu, et qui vont s'enrouler autour de l'île-Dieu, ça garde le sable un peu coincé, là, entre ces deux endroits. Et ça veut dire qu'on a beaucoup de sable, enfin, des belles réserves de sable qui sont ici. Et ça veut dire que quand le niveau marin va remonter, il va ramener aussi ce sable petit à petit sur les plages. Sachant qu'en plus, l'île-Dieu, elle a la gentillesse de fabriquer elle-même son sable un petit peu derrière, là, quand il y a des tempêtes qui cassent là, les falaises derrière. Ça alors, fait un
quand,
peu
quand
de nouveau
sable. Derrière, ça veut dire qu'elle regarde vers le continent.
Hein. D'accord.
Oui, ben oui.
D'accord.
Mais donc, ça veut dire que c'est ça. Il y a du sable qui n'est pas loin et qui va remonter doucement aussi. Ouais. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle pour l'île-Dieu.
Bah, parfait.
Voilà. Mais par contre, pour arriver à faire ça, bah, il faut que justement ce sable il soit en capacité non seulement de remonter tranquillement vers la plage, mais ça, il le fait naturellement à chaque fois qu'il y a des périodes de beau temps. Mais il faut aussi qu'il soit en capacité d'être stocké justement sur la dune. Et là encore, on retrouve notre histoire de végétation parce que si les dunes, elles sont toutes petites et qu'il n'y a pas de végétation dessus, en fait, elles ne retiennent absolument pas le sable. Alors que par contre, si les dunes sont suffisamment larges, suffisamment étendues, donc ça veut dire qu'on n'a pas trop construit derrière, entre parenthèses, et qu'elles sont bien végétalisées, bah là, quand le sable arrive, hop, elles le captent et elles s'engraissent encore. Elles grossissent encore et là elles nous protègent.
Très bien. Et il y a eu donc pour arriver là, il y a eu plein de données. Et qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces données après?
On a des grands projets pour les données. Ah oui, je te laisse commencer,
allons-y.
Elsa. Et oh là là,
là
les données,
conclure,
c'est mondial maintenant.
Ouais, alors effectivement, en introduction, on disait bon voilà, le projet Odysseus se termine. Alors, il se termine en fait du point de vue de la majorité des financements, mais tous ne s'arrêtent pas, puisque justement, notamment la veille environnementale et la veille de l'érosion côtière, les 9 sites qu'on suit avec les sentinelles de la côte, ce suivi-là, grâce à la mairie de l'Île-Dieu, il va se poursuivre encore pendant au moins 3 ans. Donc ça va nous permettre de vraiment voir comment les plages vont évoluer au fil des 3 prochaines années. Donc ça, c'est la veille environnementale. Et c'était vraiment pour ça qu'on avait créé Odysseye aussi. Hein. C'était pour que cette veille, elle puisse perdurer dans le temps. Et puis, ça reste une des suites, on va dire, du projet Odysseye. Et puis, il y a une nouvelle suite qui vient là d'être créée. Un nouveau bourgeon. Moi, j'aime bien cette idée de bourgeon. C'est le projet Odysseye. Et donc, ce projet, en fait, il va nous permettre de regarder plutôt, justement, qu'est-ce qu'on va faire de ces données maintenant qu'on les a collectées, comment est-ce qu'on fait pour les mettre en forme et pour les faire rentrer véritablement dans la gestion environnementale de l'île. Donc, que ce soit comment est-ce qu'on fait pour transmettre ces informations à la population, exactement ce qu'on est en train de faire, mais aussi comment est-ce qu'on fait pour faire rentrer toutes ces données dans les textes officiels, pour que vraiment ça ait un impact sur la gestion locale. Et donc en fait, maintenant, on a besoin de faire tout ce travail et on a besoin absolument d'embarquer avec nous un maximum de citoyens. Parce que finalement, c'est toutes ces données, maintenant qu'on les a, elles posent la question qu'est-ce qu'on veut pour l'île-dieu demain, comment on envisage le futur de l'île demain, en sachant qu'effectivement, le niveau marin, il va monter, que ça aura nécessairement des conséquences sur notre littoral. Et donc là-dessus, nous, notre but maintenant au sein du projet Odysseye, c'est d'arriver à mobiliser un maximum la population, pas seulement dans la collecte de données scientifiques de terrain, j'allais dire de données géologiques ou biologiques, mais vraiment plus dans la réflexion sur qu'est-ce qu'on veut pour les lieux demain.
D'accord.
Et pour compléter ce que dit Elsa, l'idée c'est que donc de toute façon l'île-dieu, ça c'est une sentinelle hein, pour nous. Maintenant c'est une île sentinelle. On va continuer à regarder et observer ce qui se passe, essayer de trouver des actions ou des réactions à faire en fonction de cette remontée du niveau marin. Et l'idée c'est de poursuivre donc sur quelques autres îles où il y a ce côté collaboratif qui nous semble extrêmement enrichissant de tous les points de vue et qui permet aux gens de comprendre ce qui se passe. Et donc l'idée c'est d'aller regarder sur des îles comme Ouvéa, Mayotte.
Parce qu'il
y a déjà des projets qui sont collaboratifs. En fait, l'île-dieu, elle est mûre. Maintenant, il y a ce projet collaboratif et elle va vraiment pouvoir nous servir de tête de pont pour observer comment on peut faire. Et il y a vraiment des outils qui ont été mis au point ici qui sembleraient très pertinents à utiliser dans d'autres endroits pour voir si ça marche aussi bien que sur l'île-dieu, en fait. Et voilà, on est plein d'espoir. Et de toute façon, vous allez suivre les aventures au fur et à mesure.
On sera au courant.
Ah, mais tout de suite.
Neptune FM sera aussi une sentinelle, une sentinelle radiophonique.
Tout à fait, mais voilà, la tête de pont, c'est ici, c'est l'île-dieu qui est notre sentinelle pour cette remontée.
En fait, ça veut dire que toutes les réflexions qu'on va avoir dans les 3 prochaines années sur justement comment est-ce qu'on peut goupiller les choses pour trouver des solutions pertinentes et intelligentes pour les îles face au changement climatique. En fait, tout ça, on va le communiquer à Ouvéa, à Mayotte, à Noirmoutier. Et puis, on va demander aux riverains aussi là-bas de réfléchir à ces problématiques-là. Et l'idée, c'est d'arriver à trouver des solutions qui soient viables sur l'ensemble des îles. Enfin, voilà, trouver des solutions pour les îles, sur les îles. Et puis après, peut-être on les partagera avec le continent.
Parce qu'en fin de compte, s'il y a une île, il y a un continent. Et ce qui nous intéresse, nous, ça intéresse aussi le continent, peut-être. En face.
Voilà.
Et je voulais juste rajouter une dernière chose.
Je
peux encore, c'est super.
On a encore 2 minutes avant de dire au revoir aux gens. Enfin, pas 2 minutes, parce que là, maintenant l'indicatif commence à être lancé. Donc ça sent la fin, quand même.
C'était juste pour dire qu'on remercie aussi beaucoup la Fondation de l'Université de Nantes, hein, qui nous a épaulés, qui continue à nous épauler. C'est pour ça qu'effectivement, l'île-dieu comme sentinelle, ça va continuer aussi. On aura toujours comme ça un fond qui roule et qui nous assure cette observation à long terme. C'est ça qui est vraiment important pour comprendre tout ce qu'on a devant nous.
Bah oui, c'est ça la question. Alors donc, attendez, vous ne partez pas comme ça. On va vous dire au revoir quand même. Merci d'Elsa d'être venue. Merci à Agnès aussi. Donc de nous avoir enseigné plein de choses sur l'île-dieu. On comprend maintenant pas mal de choses. Et puis c'est intéressant de savoir notre histoire pour savoir où on va aller aussi avec l'île. Alors sachez que la maquette, on la reverra sur l'île-dieu, je suppose. Ou l'autre maquette ou la nouvelle.
La nouvelle.
Il y a quelque chose de prévu ou pas, non?
Alors oui, il y a des choses de prévues. Et ben déjà là, en ce moment, on a des étudiants de master qui sont sur l'île et qui sont en train de travailler à la confection d'un jeu sérieux, donc un jeu de rôle en fait, qui va nous permettre de travailler justement à, en s'amusant avec les habitants de l'île et de réfléchir ensemble à comment est-ce qu'on imagine justement l'île du futur. Donc ça, dans les semaines qui viennent, petit à petit, le jeu de rôle va être créé et puis on va pouvoir y jouer et mettre en place comme ça un certain nombre de parties. Et donc ces parties, en plus, le plateau de jeu, justement, ce sera la nouvelle maquette.
Ce sera l'île.
Donc ça va être assez chouette comme plateau de jeu.
Merci d'être venu, je crois qu'on va se quitter. Mais vous revenez quand vous voulez, vous êtes chez vous, il n'y a pas de problème. Merci Agnès,
merci
Elsa. Et puis à la prochaine.
Une partie, une grande partie cette fois-ci.
Ça serait bien de faire ça à la Cour de Citadelle.
Ah oui, ce serait chouette, carrément.
Ou sous le chapiteau, ça serait bien.
Ah oui.
Par exemple.
Ah. Au revoir.
Merci beaucoup.
Neptune FM. Sur la côte vendéenne.
Neptune FM.
Il est 17h.
Neptune FM.
Écoutez et découvrez.
Don't I make it look easy, baby?